Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour notre culte, alléluia, qui devait se faire dimanche, mais pour des raisons personnelles, ce message n'a pas été donné, donc il a été reporté aujourd'hui. Alléluia, je vous présente toutes mes excuses. Amen, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, notre Dieu est merveilleux et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Ah, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un grand thème qui est la procréation dite horizontale. Alléluia, notre Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. La seule chose qu'il faut faire avec Dieu, c'est d'obéir, de dire oui et amen. Alléluia. Dieu est merveilleux, je ne cesserai de le dire. Je lui rends grâce de ce qu'il me permet d'être là encore aujourd'hui et en bonne santé. Alléluia. Donc, nous allons parler de ce qui est la procréation dite horizontale. Alléluia. Mais avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter une louange pour nous mettre dans le bain. Amen. Donc, depuis ta position, je te demande de danser parce que Dieu est merveilleux. Amen. Allez, c'est parti. Dieu est merveilleux. Alléluia. Et... finir ta course. Quand Dieu est à tes côtés, qui peut se lever? Personne. Oui, il nous protège chaque jour. Il te guide, il te conseille, il éclaire ton esprit. Alors, quand je dis, il est merveilleux. Il a dit que je vais réussir. Alors je réussirai. Il me l'a promis. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen, amen. Avec toi, tu deviens victorieux. Donc, tu ne peux pas échouer. Il ne ment jamais. Sa parole est vérité. Il me montre le chemin. Il connaît mes projets. C'est pour ça qu'il est merveilleux. Shalom. William, que Dieu te bénisse. Non, jamais. Lorsque tu marches avec Dieu, tu n'es jamais faible. C'est pour ça qu'il faut être obéissant. Tu te dis va à gauche, tu ne discutes pas, tu dis je vais à gauche. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tonton Alain qui est connecté et de la vie de mon fils William qui est connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, dimanche, je n'ai pas pu faire le live pour des raisons personnelles. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon aujourd'hui, c'est un jour et nous allons parler du thème qui aurait dû être fait le dimanche. Donc je disais que le thème d'aujourd'hui était la procréation dite horizontale. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse guider ces moments et que ce message puisse venir conscientiser quelqu'un ce matin. Alléluia. Parce que Dieu, au travers de ce message, va nous parler. Donc, restez connectés, détachez-vous de toute autre chose et écoutez ce message. Amen. Nous allons faire une petite révision. Alléluia. Donc, nous poursuivons cette fois avec l'appropriation horizontale. Mais il y a une petite révision. Pendant un mois, nous avons parlé de l'appropriation dite verticale. Alléluia. Donc, nous avons partagé en long et en large la procréation dite verticale, où Dieu est acteur actif et le couple ou les tourtereaux sont des acteurs passifs. Amen. Amen. Tout ce que Dieu attend d'eux est qu'ils obéissent au message divin qui peuvent être véhiculés soit par rêve, soit par vision, alléluia, soit par l'intermédiaire d'un ange ayant pris la forme humaine. Dieu attend également des tourtereaux qu'ils aient la foi. Et là, ils verront la puissance du Saint-Esprit. Amen. Agir sur eux. On conclura que c'est un miracle puisque la loi naturelle sur la procréation sera temporellement suspendue et contrôlée. Donc, je vous renvoie aux différentes vidéos qui ont été faites sur le thème la procréation dite verticale. Shalom, shalom, MB l'avoir autorisé, c'est un plaisir de te revoir. Amen. Donc, nous allons passer à la procréation dite horizontale. Soyez prêts parce que vous allez découvrir des choses. Amen.
Amen.
La procréation horizontale. Moi-même, quand j'ai eu ce cours, j'ai été, je ne sais pas quoi dire, mais je suis restée bouche bée parce que je ne savais pas. Que lorsqu'on ne suit pas Dieu, lorsqu'on fait les choses par nos émotions, par notre intelligence, il y a toujours des conséquences et les conséquences sont très très graves. Amen.
Amen.
Donc aujourd'hui nous parlerons de la procréation dite horizontale où Dieu est acteur passif et le couple ou les tourtereaux sont acteurs actifs. Donc ça veut dire que Dieu ne dit plus rien, il regarde seulement. Ça veut dire que c'est nous qui agissons, on fait comme on veut. Sans consulter Dieu, donc Dieu est là, il est passif et nous sommes acteurs de nos bêtises. Je veux dire ça comme ça. Car il ne s'agit plus de la puissance surnaturelle pour avoir un enfant, mais plutôt il s'agit de fonctionner selon la loi naturelle de la procréation telle que Dieu l'a révélée dans Genèse 1, 28. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans Genèse 1, 28? Je dis la parole de Dieu avec respect. Il dit ceci, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, ça, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Si nous sommes mariés, forcément, il faudrait que nous fassions des enfants. C'est ce qui a été dit dans la parole. Faire des enfants, c'est pas un problème. Maintenant, lorsque Dieu est acteur actif, c'est lui qui prend les commandes. C'est lui qui dirige la personne. C'est lui qui donne ses commandements, ses recommandations qu'il faut suivre. Mais la procréation dite horizontale, c'est l'homme qui décide. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant est une bénédiction de Dieu. Dans ce type de procréation, les démons sont actifs. Alléluia. Donc, vous ne fonctionnez plus en mode foi, mais vous fonctionnez en mode intelligence, en mode émotionnel et tout, parce que le démon est en train de prendre le contrôle. Les tourtereaux sont influencés par le serpent de Genèse 3, 1 à 7. Donc, si vous avez suivi la procréation dite verticale et toutes les anciennes vidéos, on a parlé de, du serpent. C'est pas le serpent, l'animal, c'est ta pensée, c'est le monologue. C'est-à-dire que tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je peux? Est-ce que ceci? Tu es dans le doute. C'est ce qu'on appelle le serpent. On va le lire dans Genèse 3, versets 1 à 7. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence à semer le doute dans ta tête. C'est-à-dire que tu es là, mais Dieu m'a dit de ne pas manger. Et le doute te dit, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a dit de ne pas manger ce fruit? Alléluia. Et donc tu combats, il y a des combats inutiles dans ta tête, alors que tu as été bien averti. Mais comme le doute t'envahit, alors tu es là, tu dis, est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Alléluia. Donc il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le réellement là déjà sème le doute dans ta tête. Réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Excusez-moi. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mouriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Donc, le serpent, ça veut dire le monologue, tu combats dans ta tête là, tu te dis, est-ce que je peux, est-ce que... Vous savez, le doute est très dangereux. Le doute peut te faire rater ta bénédiction, peut te faire rater ta destinée. C'est pour ça, lorsque tu reçois quelque chose du Seigneur, bien-aimé, sois focalisé sur ça. Si tu n'es pas certaine, il vaut mieux pour toi de te mettre devant sa présence et qu'il te confirme ce que tu as bien reçu. Amen.
Amen.
Donc, les tourtereaux sont influencés par le serpent de Genèse 3, 1, 7 que je viens de lire, soit en mode monologue, soit en mode dialogue. Alléluia. C'est ainsi que les démons vont les commander d'agir de telle ou telle manière. Exemple, il commandera à l'un ou à l'autre, ou aux deux d'avorter, ou à l'homme de nier la grossesse et de disparaître. Tu es en couple avec une personne. Peut-être que le mari n'était pas d'accord ou la femme n'était pas d'accord. Alors, le serpent est là pour te dire, mais pourquoi tu vas accepter cette grossesse? Pousse-la à avorter. C'est pas ton enfant. Alléluia. Donc, il va te mettre des pensées négatives dans ta tête. Là, Dieu n'est plus actif. Hein? Il est passif, donc il vous regarde. Alléluia.
Amen.
Donc, comme le démon est en vous, il va vous commander aux deux tourtereaux ou à l'homme de nier la grossesse et de disparaître. Ça, c'est le serpent. Ici, nous tenterons d'étudier les effets dévastateurs et nocifs de ces démons dans nos vies respectives, quelle que soit la religion, l'obédience, la couleur de peau, le statut social, etc. Alléluia.
Amen.
Donc, leurs actions négatives ou positives s'imprimeront dans la partie invisible ou souterraine de l'être humain que je vais expliquer tout à l'heure et constitueront plus tard des obstacles dans l'évolution de sa vie sociale, matrimoniale et professionnelle. Et ensuite, il cherchera un bouc émissaire pour tenter d'expliquer ses échecs. Prenez l'exemple de Caïn qui a tué Abel. Alléluia. Mm-hmm. Amen. Ce sont des pensées négatives qui sont dans la partie souterraine de notre être, qui vont se matérialiser. Alléluia. Donc, cette pensée souterraine-là, va, parce que ces pensées sont négatives, ça va te pousser soit à tuer ton frère, alléluia, soit à le frapper, soit à le tromper, soit à se suicider. Donc, le serpent ne vient pas pour te donner de bonnes idées. Hein. Il vient pour que tu fasses le contraire de ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Mm-hmm. Donc, tu es là, tu dis, qu'est-ce que je veux faire? Caïn avait des pensées négatives parce que son cœur était mauvais. Il n'a pas accepté que Dieu approuve l'offrande d'Abel et pourquoi pas le sien. Mais son cœur était comment? Et pourtant, c'était des prémices qu'il a données au Seigneur. Mais il n'avait pas un bon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit le cœur. Je peux prêcher là avec le sourire, mais quel est l'état de mon cœur? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Amen. Donc Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Amen.
Amen.
Donc chaque geste, chaque parole, chaque acte posé impactera sur l'avenir du fœtus en gestation. C'est pourquoi l'étude sur la procréation dite horizontale se portera d'abord sur les 4 premiers enfants de Jacob avec Léa, c'est-à-dire Ruben, Siméon, Lévi et Judas, tous issus d'une même semence et d'une même matrice, c'est-à-dire qu'ils sont de même père et de même mère. Sauf que ces enfants n'ont pas le même caractère. On va expliquer pourquoi ils n'ont pas le même caractère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'une femme est enceinte, tout ce qu'elle subit, l'enfant enregistre ça. Alléluia. On va voir ça par la suite. Donc, la problématique est la suivante. Comment expliquer que Ruben, fils aîné de Jacob avec Léa, ait humilié son père en couchant avec une de ses concubines, Bila, servante de Rachel, qui est la mère de ses deux frères, Dan et Nephtali. Alléluia.
Amen.
Pourquoi Siméon et Lévi étaient-ils si violents au point de devenir des meurtriers? Je lirai les versets qui justifient ce que je dis là. Pourquoi Judas est celui qui a empêché que les autres frères tuent Joseph par jalousie? La réponse de cette problématique est spirituelle, car la Bible traite des choses spirituelles qui ont une incidence positive ou négative selon qu'on obéisse ou pas. Ici, nous sommes en train de traiter des choses spirituelles, des choses qui ont été dites et qui vont se réaliser même 400 ans plus tard. Alléluia. Voilà pourquoi la dernière fois, j'avais dit que lorsqu'on donne une prophétie, l'être humain, au jour d'aujourd'hui, si ta prophétie ne s'accomplit pas le jour même ou le lendemain, on te traite de faux prophète ou fausse prophétesse. Alléluia. Mais dans la Bible, les prophéties ont été données, elles ne se sont pas matérialisées le jour. On a dû attendre des années. On prendra le cas du patriarche Abraham qui a attendu 25 ans avant que Isaac n'arrive. Alléluia.
Amen.
Donc, la Bible va nous dévoiler les secrets sur l'origine de la personnalité des 4 enfants issus d'un même père et d'une même mère. Amen.
Amen.
La même question, nous la posons aussi dans nos familles. Pourquoi Jean est différent de Jacques ou pourquoi Samuel est différent de Pierre? Amen. Du point de vue de la personnalité. Et pourtant, ils sont de même père et de même mère. Il y a 2 frères qui sont connectés là, qui sont de même père et de même mère. Et pourtant, ils n'ont pas le même caractère. Et ils sont sortis du même ventre, vous voyez. Ce n'est pas parce que on est frères et sœurs, même père et même mère, que nous allons agir de la même manière, que nous aurons la même personnalité, que nous ferons les mêmes études ou quoi que ce soit. Non, chacun a son caractère. Mm-hmm. Et ce caractère a une origine. Alléluia. Donc, du point de vue de la personnalité, la réponse est spirituelle, comme je l'ai dit auparavant. Car la science situe la personnalité de l'individu à la conception. Ça veut dire que l'enfant va prendre 50% du caractère de la mère, 50% du caractère du père. Donc, il va hériter de cela. Alléluia.
Amen.
L'astrologie situe la personnalité de l'individu à la date de naissance. Amen. Donc, par exemple, je vais dire que moi, je suis née le 30 janvier 1963, je suis Verseau. Alléluia. Donc, j'ai 50% des gènes de mon père et 50% des gènes de ma mère. Alléluia. Constatez, excusez-moi, l'individu à la date de naissance. Vous constatez déjà qu'il y a un écart de 9 mois entre la science et l'astrologie. Tout ça, c'est dans le monde spirituel. Alléluia.
Amen.
La personne n'est pas encore née. Amen. Donc, la Bible, quant à elle, situe la personnalité de l'individu avant la date de naissance et la date de conception. C'est à la rencontre des deux tourtereaux, c'est la condition de la rencontre plus la qualité des tourtereaux qui vont influencer les 9 mois de grossesse où le fœtus va être impacté négativement ou positivement selon la qualité des rapports. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le comportement de l'enfant se fait depuis la rencontre des deux tourtereaux. Comment vous vous êtes rencontrés? Où vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant votre rencontre? L'enfant n'est pas encore là, n'est pas encore né, n'est même pas encore dans le ventre. Mais tout ça va impacter l'enfant dans le ventre. Alléluia. Donc, les conditions de la rencontre, la qualité des partenaires vont influencer les 9 mois de grossesse où le fœtus est en gestation. Donc, la procréation horizontale est très, très différente de la procréation verticale. Amen. Tout ce que nous vivons, bien aimé dans le Seigneur, je parle à une femme, tout ce que la femme vit pendant sa grossesse aura un impact sur l'enfant. Alléluia. Si tu as toujours été nerveuse pendant ta grossesse parce que ton partenaire te rend nerveuse, l'enfant sera nerveux. Si ton partenaire était toujours colérique, ça te met en colère, l'enfant sera colérique. Alléluia. Donc, nous allons parler de la naissance de Ruben. Donc, Ruben, c'est le premier fils de Jacob avec Léa. Amen. Tout commence avant la rencontre de Jacob avec Léa. C'est là où la procréation dite horizontale va commencer. Alléluia.
Amen.
Donc, ce que je veux dire maintenant est spirituel. Donc, on a intitulé ça, le premier maillon est spirituel. Rien n'est encore physique. Tout se passe dans le monde spirituel. Alléluia.
Amen.
Donc, les paroles d'Isaac et sa bénédiction. Ça, c'est le premier maillon. Maillon, nous allons lire Genèse 28, verset 2, verset 1 à 2. Genèse 28, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pandaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. Faire de ta mère. Alléluia. Il a dit, lève-toi, va à Pandaram, ma belle-mère est en train de rigoler, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, qui est le frère de ta mère. Alléluia.
Amen.
Il a dit, prends une femme parmi les femmes chez Laban. Les paroles d'Isaac étaient claire et précise. Il a dit, il n'a pas dit à son fils que quand tu arrives, tu prends une femme. Non. Le message qu'il a donné, il devait transmettre ce message-là à son oncle. Donc, il a dit, lève-toi, va à Pandaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc, ça, c'est le message que Isaac a donné à Jacob, qui devait transmettre à son oncle. Alléluia. Bon, Je disais que donc Isaac a été clair et précis dans le message qu'il a donné à son fils. Maintenant, épouse une fille de Laban, une fille de Laban, le frère de ta mère. Isaac n'a pas dit la fille de Laban, car une est indéfinie. Et le choix ne t'incombe pas. Ça veut dire que tu ne dois pas choisir. On te dit, c'est celle-là qui sera ta femme. Même s'il n'y a pas de sentiments, c'est pas grave, tu obéis. Parce que là, tu n'avais pas le droit de dire, ah non, moi, je n'aime pas. Non. Peut-être que les sentiments vont venir
après.
Mais là, on t'impose une femme. Amen. Donc, voilà. Le choix ne t'incombe pas. Il appartient au père ou à la mère par défaut de trouver une femme. Les sentiments ne sont pas au rendez-vous. On t'impose une femme dont tu n'as rien à dire. Mais c'est la foi et l'obéissance qui sont les supports. Alléluia.
Amen.
Par contre, si c'était la fille de Laban, le choix t'incombe. Et là, tu es dirigé par tes sentiments et tes émotions. Mais ce n'était pas la fille, on t'a dit une fille. Amen. Donc, lorsque ton père ou ta mère te donne une recommandation, si tu veux être béni dans cette relation où on t'a envoyé là, fais seulement comme on t'a dit. Tu n'aimes pas la fille. Eh bien, écoute, dis au Seigneur, donne-moi la force d'aimer la fille que mes parents m'ont imposée. Parce que si tu agis de tes propres forces, dis non, moi, celle-là, je n'aime pas, c'est celle que je veux. Il y aura les conséquences et on verra les conséquences. Alléluia. Donc,
amen.
Tout ça, je dis que c'était spirituel. Quand Isaac a parlé, Jacob n'était pas encore avec Rebecca. Alléluia. Donc, voilà un deuxième maillon qui est encore spirituel. La bénédiction d'Isaac. Genèse 28, verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Les deux premiers maillons sont spirituels. Alléluia. Donc,
amen.
Ce sont les choses qui ont été dites avant que les choses se réalisent. Ces maillons sont montés au ciel auprès de Dieu et attendent leur accomplissement sur terre, dans le monde des vivants ou le monde réel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous sortons de nos bouches là, faisons attention. Parce que Dieu enregistre tout. Si toi, tu as oublié, lui là, il n'a pas oublié. Oui, fils, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais lorsque on est dirigé par Dieu, on est obligé de faire. Ça veut dire que nos intentions ne comptent plus. Tu te laisses guider. Tu veux réussir dans ta vie, fais ce qu'il te demande de faire. Même là où ici, il te dit que va là-bas, tu vois que ce sont les ténèbres. Il sait pourquoi il t'envoie dans les ténèbres. Mais toi, tu vas dire, mais non, mais je suis lumière, j'ai accepté Christ, je ne suis plus dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que Dieu m'envoie là-bas? Il sait, peut-être qu'il t'envoie là-bas pour sauver quelqu'un, peut-être qu'il t'envoie là-bas parce que c'est là-bas où sera ta bénédiction. Donc avec Dieu, il ne faut pas chercher à réfléchir. Fais seulement, il te dit, va là-bas, tu dis oui et amen. Alléluia.
Amen.
Donc, faisons attention aux bénédictions des parents. Il faut faire attention aux paroles des parents. Ce sont, alléluia, des maillons spirituels. Donc, ce que tu dis là, père, mère, fais attention. Parce que Dieu, il note tout. Toi, tu as peut-être oublié, mais lui, non. Donc, des maillons spirituels qui sont suspendus dans le monde spirituel. Ils attendent leur accomplissement sur la terre. Alléluia.
Amen.
Donc, les deux premiers maillons étaient spirituels. Rien n'était encore fait, mais c'était déjà dans le monde cosmique là-bas. Nous allons parler du troisième maillon, qui est la manifestation sur terre. Donc, la désobéissance de Jacob. Jacob a désobéi à Isaac. Si on raisonne, on va dire, mais pourquoi il n'a pas désobéi? Il a voulu de cette fille, c'est sur celle-là que son cœur est tombé, donc il n'a pas désobéi. Mais là, nous ne sommes pas, nous traitons des choses spirituelles. Amen. Donc, tes décisions, tu peux les garder pour toi. Donc, la désobéissance de Jacob. Au lieu d'obéir à l'ordre donné par le père Jacob va désobéir à cet ordre lorsqu'il verra une première fois Rachel. C'est moi. Il est tombé amoureux de moi. Alors, Ah là là. Donc, lorsqu'il verra pour la première fois Rachel, on a lu Genèse 3, 1 à 6, là où le serpent est venu déranger le cerveau de Ève. Alléluia.
Amen.
Donc, ou encore les sens, les émotions, les sentiments vont le pousser dans les bras de Rachel. La fille de Laban, au lieu d'attendre que le père lui donne une fille parmi ses filles, Isaac lui avait donné une recommandation. Il devait transmettre cette recommandation à son oncle. Alléluia. Mais lui, il n'a pas fait ça. Dès qu'il a vu Rachel, il est tombé fou amoureux de la fille. Ça, c'est déjà la première désobéissance de Jacob. Et ça aura des conséquences terribles dans sa vie. Alléluia.
Ouais.
Malheureusement, Jacob a agi en mode sens au lieu d'agir en mode foi. Les sentiments ont pris le dessus sur le message du père. Surtout que Rachel était belle. Rachel était belle, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que dans Genèse 29, 17, « Mais Rachel était belle de figure et belle de taille. » Amen. Donc Rachel était belle. Jacob ne pouvait pas résister à la beauté de Rachel. Comme mon mari, Laurent, n'a pas pu résister à ma beauté. Oh, Dieu est merveilleux. Donc, Rachel avait une taille guitare espagnole. Comment résister à cette beauté? C'est pas possible. Donc, il a désobéi à son père. Il a vu Rachel, il a dit, waouh, ça c'est ma vie, ça c'est mon cœur. Aïe, aïe, ça c'est ma moitié. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ah, voilà. Donc, le quatrième maillon, ce sont les conséquences de la désobéissance. Donc, le troisième maillon, c'était que Jacob avait désobéi. Il n'a pas attendu que son oncle lui dise que voici la femme. Non, 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 non. Il a dit, moi, j'ai vu Rachel. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Mais non. Excusez-moi si j'ai ri, mais c'est ma belle-mère qui me fait rien.
Oh.
Mais bon, ça met un peu d'ambiance dans le live, n'est-ce pas? Ah, Seigneur, aide-nous. Ben, il va nous aider. Le fait que Jacob soit tombé follement amoureux de Rachel, Genèse 29, verset 18, la parole de Dieu dit quoi? 29, verset 18. Alléluia.
Amen. Jacob.
Amen. Voilà, verset 18 dit, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ah, mais c'est qu'il était vachement amoureux de Rachel, hein? Vous vous rendez compte? Seigneur, donc le fait que Jacob soit tombé follement amoureux de Rachel, donc je viens de lire Genèse 29, 18, aura des persécutions plus tard dans sa vie matrimoniale. Il acceptera de payer la dot de Rachel 7 ans en travaillant au service de Laban. Nous allons lire Genèse 29, 10 à 11. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Et c'était fort. Ah ouais, l'amour rend aveugle, l'amour. L'amour rend aveugle. Donc Jacob aimait Rachel. Donc, parce qu'il aimait Rachel, il était prêt à sacrifier encore cette année. Mais Laban, conscient que Jacob est amoureux de Rachel, va user de tromperie pour changer Rachel et la remplacer par Léa à la nuit nuptiale. Et justifiera son acte en exhumant une tradition de chez eux. Nous allons lire Genèse 29, versets 23 à 27. Alléluia. Amen. Genèse 29, versets 23 à 27. Je fais la lecture. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi? » N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Vous, attendez, bien aimé, dormir avec une femme que tu n'aimes pas du tout, on te dit de rester encore avec elle une semaine, ou dormir avec un homme que tu n'aimes pas, donc tu subis la personne. Et c'est clair que, comment on appelle, Léa aimait Jacob. Mais elle a subi Jacob parce que Jacob ne l'aimait pas du tout. Alléluia. Amen. C'est compliqué, hein, de vivre avec une personne qu'on n'aime pas.
C'est clair.
Vous savez que dans nos familles aussi, quand l'aîné n'est pas marié, ben la petite sœur ne peut pas se marier. Ça aussi, ça se fait. Alléluia. Mm-hmm. Mais Jacob était malheureux. Si tu aimes ta fille, tu vas pas donner ta fille à quelqu'un qui ne l'aime pas. Mais bon, comme je disais, on est en train de parler des choses spirituelles. Alléluia. Nous n'allons pas raisonner. Donc, cette pirouette de Laban aura des conséquences sur Ruben, Siméon et Lévi. Donc, Ruben, Siméon et Lévi, ce sont les enfants de Léa. Mais tout ce qu'elle va subir avec Jacob va se répercuter sur ses enfants. Ouais. Alléluia. Donc, amen. La Bible ne traite pas de l'amour sentimental, mais de l'amour par la foi. Dieu ne traite pas l'amour sentimental, émotionnel, mais plutôt l'amour par la foi, l'obéissance et le respect. Amen.
Amen.
Est-ce que Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à son fils. Alléluia. La Bible ne nous dit pas si Rebecca aimait Isaac ou si Isaac aimait Rebecca. Mais c'était quelque chose qui a été dit, il devait obéir. Donc, Isaac ne pouvait pas dire, « Oh, mais papa, laisse-moi choisir ma femme. » Non, 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 il devait obéir. Donc, avant, c'était compliqué. Hein? Tu obéis. C'est pour ça que ta chair là, si tu veux obéir à Dieu à 100%, il faut que tes émotions meurent, que ton intelligence meure, puis tu dis, « Saint-Esprit, prends le contrôle. » Alléluia. Donc, après avoir vu les conditions de la rencontre de Jacob et Léa, nous nous pencherons maintenant sur la qualité des partenaires. Non. Nous avons vu les conditions de la rencontre de Jacob avec Léa. C'était le père, alléluia, qui était acteur là. Il a imposé Léa à Jacob parce que dans leur coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Amen.
Amen.
Donc, qui sont Jacob et Léa? Jacob est né sous le signe de la ruse. Genèse 27, verset 36. La parole de Dieu dit, Ésaü dit, est-ce parce qu'on t'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Il a enlevé le droit d'aînesse d'Ésaü en faisant quoi? En lui donnant le plat des lentilles, non? Ben, Ésaü, il avait faim aussi, donc il a préféré vendre son droit de naissance contre un plat de lentilles. Il a enlevé mon droit de naissance. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Il a supplanté son frère deux fois. Mm-hmm. Hein? Ouais. Avec la complicité de sa mère. Donc, Isaac a donné la bénédiction à Jacob. Lorsque Ésaü est venu, mais il n'y a plus de bénédiction. Amen. Mais cet homme tranquille et doux, mais c'est un homme tranquille et doux. Jacob, hein? Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous la tente. Donc, Léa, par contre, n'est pas belle. Elle a le regard terne. Genèse 29, 17. C'est ce que la parole de Dieu dit. Léa avait les yeux délicats. Donc, ça veut dire que la vue de Léa était faible. C'était un handicap pour elle. Voilà peut-être pourquoi elle n'avait pas d'homme. Alléluia. Vous savez, un handicap peut te faire rater ta bénédiction aussi. Hein? Amen. Amen. Par contre, Rachel, la parole de Dieu dit quoi? Qu'elle était belle de visage et belle de tête. Et la pauvre Léa, ben, elle avait une vue faible. Amen.
Amen.
Donc, Ruben, Siméon et Lévi auront chacun une personnalité liée à l'ambiance qui a prévalu pendant les 9 mois de grossesse. Qu'est-ce que Léa a subi pendant ces mois de grossesse? Alléluia. Elle a subi beaucoup de choses de la part de son mari. Et ça s'est répercuté sur ses enfants. Le cinquième maillon, gestation des 9 mois de grossesse et leur incidence future sur leur vie et leurs descendants. Amen.
Amen.
Mais il faut savoir gérer les 9 mois de grossesse. J'ai dit, tu es colérique, ça va se répercuter chez les enfants. Tu es une personne nerveuse, tu es une personne insolente, tout, ça veut dire que tout ce qui est négatif ou positif vont impacter les enfants parce que par le cordon ombilical, ouais. Alléluia, donc ouais, tu es lié à l'enfant. Jacob est un homme déçu. Pourquoi il est déçu? Parce que Léa n'était pas celle qu'il aimait. Donc il est déçu de ce mariage avec Léa. Mais il n'avait pas le choix, il ne devait qu'obéir. Puisqu'il a épousé finalement une femme qui ne le convenait pas, car elle était choisie par le père Laban. La relation de Jacob et Léa, c'était le père qui était au milieu. Parce qu'il a dit que ce n'est pas possible que la cadette se marie avant l'aînée. Alléluia.
Amen.
Donc pendant 7 ans, il devra supporter Léa. Regardez, il devra supporter, c'est que c'était vraiment compliqué pour lui, hein, supporter une personne. Il n'avait pas le droit de coucher avec Rachel. Donc, il avait une relation avec Léa, mais par la force des choses, Dieu sait comment était son visage, Dieu sait comment était, hein, c'est-à-dire que la femme l'accueille avec, je sais pas, avec amour, lui, c'était, oh là là, encore ton visage. C'est compliqué, hein. Donc, on dit qu'il devra supporter Léa pendant 7 ans. Donc, ses émotions, écoutez bien, la procréation horizontale. Donc, alléluia, ses émotions, ses pensées, ses colères, son amertume, son indifférence, ses écarts de langage, son absence d'amour vont impacter le fœtus. Lui, la parole de Dieu dit qu'il devra supporter Léa. Mais Léa devait subir ses humeurs.
Eh ben oui.
Alléluia. Tu sais que tu es avec un homme qui n'a aucun sentiment pour toi. Et puis, il ne fait même pas un effort. Regarde, donc tu subis son amertume, son indifférence, ses écarts de langage, son absence d'amour. Alléluia. Tu subis tout ça. Et ça va impacter le fœtus en gestation, lequel est relié à la mère par le cordon ombilical. Donc, l'enfant vit tout ça. Donc, vous les jeunes là, qui êtes connectés là, il faut bien écouter ça. Donc, tu vas te marier là. Si ce n'est pas le choix de Dieu, toi, tu es parti par amour de toi-même. Tu dis que, ah, ça, c'est la femme que j'aime. Ça, c'est, oh, mon Dieu. Il y aura des conséquences.
Ouais.
Il y aura des conséquences. Maintenant, vous me direz, mais comment on sait si c'est la femme que Dieu m'a donnée? Dieu va te donner une femme, tu vas dire non. Parce que si toi, tu as déjà les yeux sur Rachel, et Dieu te donne Léa, tu vas dire que non, c'est faux. Dieu ne peut pas me donner Léa alors qu'il sait que j'aime Rachel. Mais Dieu s'en fout de tes sentiments. Dieu s'en fout de tes émotions. Donc, si tu désobéis à Dieu, mais il y aura des conséquences. Tu vas avoir des enfants terribles. Parce que tu vas faire souffrir la femme que Dieu t'a donnée. Elle aussi, elle te subit. Alléluia.
Ouais.
Donc, Léa a pris soin de consigner pour la postérité les informations relatives aux différentes grossesses. Donc, lorsqu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, Léa, elle a tout enregistré et elle sait pourquoi ses enfants sont comme ça, s'ils sont meurtriers, ils sont colorés, elle sait. Mais toi, femme, écris tout ce que tu vis pendant ta grossesse. Si tu ne peux pas retenir, écris. Et tu verras comment se comportent tes enfants et tu te diras que, ah oui, c'est vrai. Centenaire royal Daniel, Dieu va te frapper. Il faut écrire, parce que si tu vois ton enfant colérique, tu vas te dire que comme ça que son père était avec moi, donc il a pris ça, et j'ai subi ça. Alléluia.
Amen.
Voyez, un petit témoignage. Il y a une dame, elle était mariée, elle est toujours mariée, mais son mari a eu un écart, a fait un écart. Il a juré qu'il devait quitter sa femme. En temps, la femme avait des difficultés de faire les enfants. Et par la grâce de Dieu, elle a fini par enfanter. Et c'est lui qui cherchait. Il allait voir tout. C'est-à-dire que et la médecine traditionnelle, et la science et tout, il a tout fait parce qu'il voulait que cette femme, sa femme soit enceinte. Et quand la femme est tombée enceinte, lui, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et donc, il suppliait la femme. Il disait qu'on va se séparer. Tu ne m'as plus, mais je ne t'aime plus. Elle était enceinte. Et comme la femme aimait son mari, comme Léa aimait Jacob, alléluia, elle a supporté les indifférences de son mari. Elle a supporté le manque d'amour de son mari. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et elle a fait une fille. Mais c'est-à-dire que quand la mère regardait la fille, elle pensait, c'est-à-dire que si la petite pleurait, elle frappait la fille, hein, parce qu'elle pensait à ce que son père l'avait fait subir, que ton père m'a fait subir, toi tu vas pas aussi me faire subir. Et la fille, elle est très caractérielle. Alléluia. Et donc, cette dame a dit, c'est quelqu'un qui est venu dire à la dame que arrête de te comporter comme ça avec ta fille, elle n'est pour rien. Si ton mari t'a fait souffrir, c'est pas la petite. Et là, elle a pris conscience que la pauvre n'avait rien à voir dans l'affaire. Mais c'est que la petite aussi avait de faire un caractère, mais pas possible. Mais tout ça pourquoi? Parce que la mère n'avait pas eu une grossesse où elle avait la paix, où elle avait l'amour du père. Mmh. Alléluia. Mmh. Donc, bien aimé, c'est compliqué. Hein?
Ouais.
Ah, donc, Léa a pris soin de consigner pour la postérité les informations relatives aux différentes grossesses. Donc, il faut noter. Je me dis, mais pourquoi l'enfant est comme ça? Ah, je me rappelle quand j'étais enceinte. Eh, ce que j'ai subi. Mais, ah, mon Dieu, l'amour que mon mari me donnait. Il faut noter tout ça. Alléluia. Donc, nous allons lire Genèse 29, verset 32, qui concerne Ruben, qui est né sous le signe de l'humiliation. Vous voyez? Jacob a humilié Léa par son comportement. Et donc, pendant ce temps-là, Léa était enceinte de qui? De Ruben. Donc, il est né sous le signe de l'humiliation. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation. » Et maintenant, mon mari m'aimera. Hey! Quelqu'un ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il te montre qu'il ne t'aime pas. Donc, elle a pensé que le gars allait l'aimer. Maintenant, Siméon est né sous le signe de la colère et la violence. Voilà comment elle a subi la grossesse de Siméon sous le signe de la colère de son mari, la violence de son mari. Forcément, ça a impacté le fœtus. Alléluia. Donc, Genèse 29, verset 30 dit, Elle enfanta encore. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. My God, la pauvre fille. Et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Bien, mais quand tu aimes une personne, tu espères jusqu'à... Tu t'es dit, un jour, il y a toujours un jour, n'est-ce pas? Un jour, il finira par venir. Un jour, il finira par se rendre compte que, hé, j'ai quand même une femme, c'est quand même la mère de mes enfants. Mais Jacob aimait Rachel. Donc, Lévi, il est né sous le signe de la violence aussi. Donc, Genèse 29, verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Hé, la pauvre, j'aimerais pas être à la place de Léa. Maintenant, nous allons parler des personnalités de Ruben, de Siméon, de Lévi. La personnalité de Ruben, donc c'est dans le livre de Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22, la parole de Dieu dit ceci. Pendant qu'Israël habitait une contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Il a humilié sa mère pendant qu'elle était enceinte. Il a reçu ça par le lion du cordon ombilical. Ruben va se venger. Alléluia. Donc, après avoir été affecté par les humiliations de son père lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, en âge adulte, il vient à son tour humilier Jacob en couchant avec Bila, la mère de ses deux frères, Dan et Naphtali. Est-ce que vous voyez les conséquences de la désobéissance? Jacob avait désobéi à son père Isaac. Voici les conséquences. On te dit, va donner le message. Et laisse ton oncle te donner une femme. Non, toi, tu tombes sur Rachel, tu dis que c'est Rachel. Maintenant, on te donne Léa, tu es indifférent. Et voici les conséquences.
Ouais.
Alléluia. Donc, en fait, il a couché avec sa marâtre. La femme de son père, sa marâtre, c'était pas sa mère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il a couché avec la femme de son père, donc sa marâtre. En fait, il a couché avec sa marâtre. C'est l'humiliation totale. À cause de ça, Ruben perdit son droit d'aînesse au détriment de Joseph. Alléluia. Il a perdu son droit d'aînesse au détriment de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait humilié son père. Donc, Genèse 49, versets 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. Amen.
Amen.
Toi, tu veux le verset?
Oui.
Tu peux le lire, s'il te plaît?
Alors, Genèse 49.
Oui, verset 3 à 4.
Je lis la parole du Seigneur avec respect.
Amen.
Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant.
Vous voyez? Alléluia.
Amen.
Donc, il dit, je vais reprendre, il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Mais ça, c'est quelle malédiction? Tu vas coucher. Mais tout ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. Bien aimé, lorsqu'on désobéit, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Alléluia.
Amen.
Genèse 37, verset 3. Genèse 37, verset 3 dit ceci. Israël aimait Joseph. Donc Israël, c'est qui? C'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, avec qui? Avec sa bien-aimée, Rachel. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Hein? C'était le bien-aimé de son père. Et Ruben aurait pu avoir ça, mais il a couché avec sa marraine. Mais comment ça peut te venir à l'idée? Donc, ça, c'est le serpent qui t'a mis ça. Et puis, les humiliations que ta mère a subies, tu as subi ça dans le ventre. Et voilà. Tu es maintenant, tu veux maudire l'enfant, mais c'est à cause de toi que l'enfant a fait ça. Mmh. Alléluia.
Amen.
Une attitude que l'on qualifiera de démoniaque, où les parents chercheraient à le purifier en allant chez les tradis praticiens, alors que l'origine vient de la naissance d'Isaac. Alléluia. Qui se comporte de la sorte, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais l'enfant est maudit, l'enfant est ceci, il faut qu'on aille voir les tradis praticiens et tout, alors que ça a une origine.
Oui.
Jacob avait désobéi à son père. Alléluia.
Ouais.
Jacob avait désobéi à son père. Donc là, c'est pas, si tu n'es pas spirituel, tu vas penser à ça, Dieu, on va aller voir les ngangas, chez nous les ngangas, c'est comme les marabouts, des trucs comme ça, alors qu'il n'en est rien de tout ça. Amen.
Amen.
Donc, sa descendance, 400 ans plus tard, vous voyez, 400 ans plus tard, les conséquences vont toujours se perpétuer. 400 ans plus tard, sa descendance va être impactée. Nous lisons dans Nombre 16, verset 1. Nombre 16, verset 1, voici ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Corée, fils de Jessea, fils de Kehat, fils de Lévi, se revolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils, mais trois petits-fils de Ruben. Ils se sont, c'est-à-dire que le caractère de Ruben là s'est perpétué sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Donc, les trois arrière-petits-enfants de Ruben ont cherché à humilier Moïse, le médiateur entre le peuple et Dieu. Donc, regardez, la désobéissance, la colère, tu désobéis à quelqu'un qui parle bouche à bouche avec Dieu, tu défies cette personne, mais c'est encore la malédiction qui vient là. Mm-hmm. Et donc, ces arrière-petits-enfants-là, c'est encore leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Ils vont agir de la sorte. La désobéissance a des conséquences très graves. Alléluia. Donc, Siméon et Lévi, ils sont nés sous le signe de la colère et de la violence. Nous avons lu Genèse 29, 33. Alléluia. Nous l'avons déjà lu. Et Lévi, on a lu Genèse 29, verset 34. Donc, Léa décrira pour chacun l'ambiance qu'a prévalu, alléluia, pendant les 9 mois de grossesse, la personnalité des deux hommes violents. Donc, Lévi et Siméon étaient des personnes violentes. Genèse 34, versets 25 à 26. Genèse 34, versets 25 à 26. Alléluia.
Amen.
Tu veux lire?
Ah oui, tu veux? Alors, je lis la parole du Seigneur avec respect.
Amen.
Le troisième jour, 25, hein, tu as dit.
25 à 26, oui.
Le troisième jour, pendant qu'ils étaient tous, qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qu'ils se croyaient en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent.
Voilà, vous voyez?
Ouais.
Siméon et Lévi sont nés sous le signe de la colère, de la violence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, quand Sichem avait violé leur sœur, amen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tuer le roi et tous ses serviteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout le village. Pourquoi ils ont fait ça? Ils sont nés sous quel signe? Sous le signe de la violence. Amen.
Mm-hmm.
Et donc, ça les poursuit. S'ils ne violentent pas, c'est-à-dire que si leur colère ne les pousse pas à agir, ils ne sont pas bien. Ils ont vécu ça dans le ventre à cause de leur père qui a fait souffrir leur maman. Et donc, ces enfants sont violents à cause de ça. Donc, je disais que leur violence a une origine. C'est pas, ils ne sont pas maudits, ce ne sont pas les sorciers de la famille, mais c'est le résultat de ce que la maman a subi pendant qu'elle était en grossesse. Alléluia. Donc, ils ont été violents, ils sont allés tuer tout le monde. On peut être aussi mauvais, on peut être aussi violent comme ça, parce que tout ça, ça reste. Et Jacob, il était déçu de ses enfants, mais il oublie que c'est à cause de lui. Alléluia.
Ouais,
et pourtant, Sichem a dit qu'il aimait la fille. Donc, donnez-moi la fille en mariage. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont d'abord donné une condition que si vous voulez être des nôtres, il faut passer par la circoncision. Ils ont fait ça. Et ces gens étaient malades, ils étaient souffrants. Ils sont partis les massacrer dans leur souffrance. Vous voyez la violence. Vous voyez les conséquences de la désobéissance. Alléluia.
Ouais, amen.
Donc, voilà. 400 ans plus tard, Moïse, connaissant l'origine de Lévi et leur profil sanguinaire, il va utiliser sa descendance pour punir les personnes qui ont fabriqué le veau d'or. Exode 32, versets 25 à 29. Alléluia. Exode 32, versets 25 à 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est béni avec ce message, n'est-ce pas? Que la procréation horizontale est terrible. Hein? Exode 32, versets 25 à 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Alléluia.
Amen.
Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel au Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Et c'est compliqué. Tu vas tuer ton frère, ton parent. Ah! Les conséquences de la désobéissance. Le verset 28 dit, « Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. » Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils ou votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Amen. Donc, pour que Dieu aussi les bénisse, il fallait qu'ils passent aussi par ce massacre-là. Vous, attendez, tu te lèves le matin, tu décides d'aller tuer des gens comme ça, et puis tu crois qu'il n'y aura pas les conséquences? Hein?
Ah ouais.
Regardez, il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Géasi. Il travaillait, c'était le serviteur de Élisée. Donc, il y avait Naaman. C'était un officier qui était atteint de la lèpre. Et dans sa maison, il y avait une jeune fille qui était prise en captivité, qui a dit à sa maîtresse que, en Israël, il y a un prophète. Si mon patron va là-bas, il va le soigner. Alléluia. Donc, il est parti. Ils ont écouté la petite. Vous savez, deux fois, vous hébergez des anges, vous ne savez pas. Cet homme a été guéri de la lèpre grâce à cette petite fille. Donc, il est parti. Il a été guéri. Je vais paraphraser. Il a été guéri. Il avait amené des présents pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas pris les présents. Et ça irritait Géasi, son serviteur. Qu'est-ce qu'il fait? Quand l'officier est reparti, il a poursuivi l'officier. Alléluia. Et dire que voici, on a reçu des gens et tout. Donc, mon chef a dit qu'il donne les lingots d'or et tout. Il était content. Il dit, enfin, il va prendre les présents qui étaient prévus pour lui. Mais il avait menti. Donc, son mensonge a eu des conséquences. Il a oublié qu'il avait affaire à un grand prophète. On lui demande, tu étais où? Il dit, non, j'étais à côté. Hey, mon esprit était là. Quand, partout où tu partais, là, mon esprit était avec toi. Et qu'est-ce que Élisée a dit à Géasi? Que cette lèpre-là, s'attachera à toi, à tes enfants et à tes arrière-petits-enfants. Hein? Donc tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, à cause de son mensonge. Donc les enfants se disent, mais attends, mais pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi j'ai l'arrière? Pourquoi? Mais parce que ton grand-père, ton arrière-grand-père avait désobéi au prophète qui était son patron. Est-ce que vous voyez un peu les conséquences du mensonge, de la désobéissance? Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui paye seul, mais ça va jusqu'à la quatrième génération. Alléluia. Faut pas jouer avec celui. Faut pas jouer avec Dieu. C'est pas ton ami, mon frère. Donc, en conclusion, bien aimé dans le Seigneur, on arrive à la conclusion. T'en prends, Alain. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen.
Amen.
Les noms que portent Ruben, Siméon et Lévi sont directement liés à l'ambiance qui a prévalu durant les 9 mois de grossesse. C'est l'origine même de la partie invisible des 3 enfants. C'est cette partie qui influencera chaque fois leur descendance. Alléluia.
Amen.
Ils seront colériques, ils sont colériques, ils sont nés sous le signe de la colère, sous le signe de la violence. Mais ça va poursuivre les enfants. Mm-hmm. À cela vont s'ajouter l'hérédité, soit 50% de la mère, soit 50% du père. Ça veut dire que depuis la date de la conception. Maintenant, quel est l'intérêt de ce live-là qui a pour thème la procréation dite horizontale? Mais j'aimerais faire un petit commentaire. Alléluia. Genèse 29, 17 nous dit quoi? Non, on a déjà lu ça. Mon petit commentaire est le suivant. Dans chaque être humain, la partie invisible, c'est la condition de la rencontre de papa et maman. Plus les caractères de papa et maman. Ces deux éléments vont influencer positivement ou négativement, alléluia, les 9 mois de grossesse. Comment est-ce que les gens se sont rencontrés? Dans quelles conditions? Et qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant leur rencontre? C'est-à-dire que tout part depuis la base là, depuis la rencontre. Comment ça va influencer les 9 mois de grossesse de l'enfant? Tu as rencontré le gars? Bonjour, bonjour, ça va? Comment et tout, oui? Au fur et à mesure que vous voyez, les sentiments deviennent grands et tout. Alors vous décidez de dire, bon, on va se marier. Mais peut-être que le mariage, c'était l'idée d'une seule personne, pas des deux. Donc là, il y a déjà un problème. Et par la force des choses, ils vont se marier. Mais les deux n'ont pas été d'accord pour le mariage. Mais bon, ils se sont quand même mariés. Bon, ils se marient. La femme dit, ah, moi, j'ai besoin maintenant de faire un enfant. C'est pas le problème du gars. Lui veut savourer son mariage et tout. Toi, tu veux lui coller une grossesse, hein? Alors que peut-être qu'il veut voyager avec toi, il veut faire beaucoup de choses avec toi, tu veux lui coller une grossesse au point où tu ne pourras plus sortir. Ça fait déjà 2 éléments qui peuvent impacter l'enfant le jour que tu seras enceinte. C'est compliqué la procréation horizontale.
Ouais.
Hein, bien-aimé? Si tu es d'accord avec moi, tu mets le pouce là-bas.
Amen.
Et si tu veux que je continue aussi, tu dis amen. Alléluia.
Bon. Alléluia.
Quel est l'intérêt de ce live? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est de rappeler aux gens de connaître l'origine de leur naissance. Ceci dans le but d'éviter des boucs émissaires dans la famille. Alléluia. Ton enfant est colérique. Tu vas dire, ah oui, voilà, c'est si. Non. Tu sais pourquoi ton enfant est colérique? Tu sais pourquoi ton enfant est violent? Tu sais pourquoi? Tu sais ce que tu as suivi pendant ta grossesse? Non, vous allez chercher. Oui, ce sont les sorciers de la famille. Quel sorcier de la famille? Il n'y a pas les sorciers de la famille. Alléluia.
Amen.
Donc, ceci dans le but d'éviter des boucs émissaires dans la famille, parce qu'on n'arrive pas à expliquer les problèmes obscurs auxquels on est confronté. Alléluia. L'intérêt aussi est de rappeler que les enfants nés sous la procréation dite horizontale sont des brebis égarés. Oui, ils n'ont aucune direction. Ils sont égarés. Et Jésus dans Ésaïe 53, Qu'est-ce que Ésaïe 53, verset 3 à 6 nous dit? Dieu merveilleux. Ésaïe 53, verset 3 à 6 dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et la parole de Dieu dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, il a porté tout ça là pour que nous soyons sauvés. Amen.
Amen.
Et le jour de Pâques est venu prendre toute cette souffrance sur lui. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 28 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia.
Amen.
Mais si tu es fatigué, toutes les situations que tu vis là, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça, pour toi. Et il te dit, au lieu de chercher, je ne sais pas moi, des boucs émissaires, au lieu de va devant la présence de Dieu, il dit de venir déposer tous tes fardeaux. Et il va te donner du repos. Amen.
Amen.
L'intérêt aussi de ce live est de conscientiser les mères à consigner en toute objectivité par écrit les émotions, les événements naturels, sociaux, avant et pendant la grossesse. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que il faut, si tu ne peux pas retenir ce que tu as vécu pendant ta grossesse, il faut écrire. Comme ça, ça va t'aider pour tes enfants. Tu sauras pourquoi tes enfants sont comme ça et tu te diras, tu vas te rappeler que oui, quand j'étais en grossesse de Ruben, voilà ce que j'ai subi, voilà pourquoi Ruben est comme ça. Donc, il faut tout écrire. Léa, elle avait tout consigné, elle avait gardé ça dans sa tête. Mmh. Alléluia.
Amen.
Ce sont des informations importantes. Donc, si vous n'arrivez pas à retenir, il faut écrire. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Il s'agit d'un grand footballeur brésilien que tout le monde connaît, même si tu n'étais pas né. Mais quand tu es né, tu as entendu parler de lui. Il s'appelle Pelé. Mais Pelé là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées autour de lui pour qu'il soit Pelé aujourd'hui. Parce que jusqu'aujourd'hui, les mois, je ne sais pas combien d'années, on parle toujours de Pelé. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui a impacté sa vie. Amen. Donc, Pelé, grand footballeur de tous les temps. Sa mère a donné un nom lié à un événement qui s'est passé lorsqu'il est né. Alléluia. Donc, lorsqu'il est né, qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Bahia, c'est une ville du Brésil, là où il habitait, où Pelé est né, venait de recevoir l'électricité. Donc, il n'avait pas d'électricité. Hein? Quand il est né, il venait de recevoir l'électricité. Maintenant, en mémoire d'Edison, Edison, c'est qui? C'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Amen. Donc, les parents lui donnèrent le prénom de Edison. Au lieu de Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique, ils ont mis Edson, qui vient d'Edison. Shalom, shalom, prophétesse Maria, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le vrai nom de Pelé, oh my God, c'est Edson Arantes do Nascimento. Donc, Edson vient de Edison. Alléluia. Pourquoi on lui a donné ça? Je vous ai dit parce que dans sa ville, là où il est né, là, il y a eu l'électricité. Il venait de recevoir l'électricité. Et donc, les parents ont coupé le nom. Ils ont dit Edison. Ils ont mis Edson. Donc, Pelé a une histoire avec l'arrivée de l'électricité dans son village. Alléluia. Ah. Vous voyez que on parle de Dieu, mais il faut aussi parler de la science, de toutes ces choses-là. Amen. Ah, ce sont des exemples. C'est-à-dire qu'on matérialise la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans nos vies respectives. Alléluia. Mm-hmm. Donc, tu dis que la parole de Dieu dit que Dieu guérit. Ça, c'est très bien, c'est écrit dans la Bible. Bon, toi, tu souffres de ta maladie. Tu as dit que Dieu guérit. Est-ce que Dieu t'a guéri? Il faudrait que nous soyons les témoins vivants de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, c'était une révélation qui influencera Pélé tout le long de sa carrière. On se souviendra que Pélé, là, lorsqu'il est né dans son village, là, il y a eu l'arrivée de l'électricité. Et cet homme s'appelait Edison. Mais les parents ont coupé, ils ont mis Edson. Alléluia. C'est là qu'il y a, c'est Pélé qui a éclairé le football, c'est lui qui a éclairé le football mondial et permis à beaucoup de Brésiliens noirs d'espérer jouer à l'équipe nationale. Alléluia. Donc, Pélé a été le moteur des jeunes Brésiliens pour le football. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'événement là.
Ouais.
C'était un grand, celui qui a inventé l'ampoule électrique, c'est pas n'importe qui. Et puis on dit, tu portes le nom de la personne là. Donc une grande, tu influences à cause de ce nom. Alléluia. Mm-hmm. Et il a fait rêver les jeunes Brésiliens. Donc, grâce à lui, le Brésil a gagné successivement 3 coupes du monde. Et conservera la coupe Jules Rimet. Jules Rimet, c'est qui? C'est celui qui a inventé la coupe du monde.
Ah ouais.
Donc, cette coupe-là s'appelle Jules Rimet. My God, est-ce que vous savez ça?
Non.
Moi non plus, je ne savais pas ça jusqu'à ce qu'on me l'enseigne. Il est le seul joueur à avoir marqué plus de 1000 buts. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le thème? Si ça a à voir avec le thème, ça veut dire que ce que tu as vécu dans ta vie-là, alléluia, peut impacter ta vie. Et donc, le fait qu'il ait porté le nom de celui qui a amené l'ampoule électrique dans son village à Bahia et qu'il porte ce nom-là, alléluia, ça a influencé les jeunes Brésiliens parce qu'ils jouaient aussi au foot. Donc, ça a eu un impact positif sur la vie de Pelé et la vie de Pelé a eu un impact positif sur la vie des footballeurs brésiliens. Bien aimé, ils ont eu la coupe 3 fois successives. Ils ont gagné la coupe là. La coupe s'appelle Jules Rimet. Il est le seul joueur à avoir marqué plus de 1000 buts. Hein? C'est pas n'importe qui. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Pelé.
C'est clair.
Alléluia.
Amen.
Donc, Jules Rimet, c'est celui qui a inventé la coupe du monde. Si vous ne le savez pas, mais c'est une bonne information. Alléluia.
Amen.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, la procréation horizontale a des conséquences. C'est une procréation qui te détruit. Alléluia. Parce que ce que tu as subi, tu vas le perpétrer. Mon père était colérique. Il a fait, je vais être poli, il a fait souffrir ma mère. Moi, si je veux faire souffrir la femme que j'aurai. Et ça va, c'est-à-dire que si tu n'es pas brisé, si on ne brise pas cet esprit-là, ça va se perpétrer.
Mm-hmm.
Et Rimet, parce que sa mère a souffert, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti coucher.
La femme de son père.
Parti coucher avec la femme de son père. Ça c'est la malédiction.
Mm-hmm.
C'est la malédiction. Mais bon, tout ça, pourquoi? Il y a une source. Cette malédiction a une source. La source, c'est quoi? C'est la désobéissance. On dit bien, mais honore ton père et ta mère, quel que soit ce qu'ils te font, fais ta part, honore ton père et ta mère, sinon voici les conséquences.
Ouais.
Alléluia. Ouais. Tu n'as pas, tu sais que Ruben passe en dire, regarde-moi ce violent-là, regarde-moi ce colérique-là, regarde-moi ce meurtrier-là. Donc on ne t'appelle même plus par ton nom, ça veut dire que ce que tu fais s'attache à toi.
Ouais.
On oublie ton prénom, on t'appelle par ce que tu fais là maintenant. Regarde-moi la prostituée, regarde-moi le voleur, mais tu, le voleur là, il a un nom. Le voleur là, c'est un enfant de Dieu. Dieu aime le voleur, mais Dieu n'aime pas le vol. Alléluia.
Ouais.
Mais soyons. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la désobéissance ne soit pas ton partage. Parce que la désobéissance a des conséquences très graves, très très graves. Donc laisse-toi guider par Dieu. D'où l'importance capitale d'être dans le couloir de procréation verticale où tu te laisses guider. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. C'est lui qui prend les choses en main. Alléluia. Je vais parler de Jérémie. Dieu a besoin des corps sur la terre là pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. Donc il avait besoin d'un couple pour faire Jérémie. Mais Jérémie ne dépendait pas de ses parents. Jérémie dépendait de Dieu. Alléluia. Jérémie dépendait de Dieu. Samson dépendait de Dieu. Alléluia. Donc Dieu cherche des corps. Aujourd'hui, tu te dis pas moi, tu fais partie de telle famille. Ok, tu fais partie de telle famille, mais tu n'appartiens pas à cette famille. C'est que Dieu voulait cette famille-là pour que tu naisses là, mais tu es, c'est-à-dire que il te commande, tout ce que tu fais doit venir de lui. Tes parents n'ont aucun droit sur toi. Mais la procréation horizontale, ce sont nos émotions là. J'aime une femme. Je vais me mettre avec elle. J'aime cet homme, je vais me mettre avec elle. Tu connais même pas sa vie. Tu sais pas d'où il vient, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a vécu, de quelle origine, qu'est-ce que ses parents ont fait. Non, l'amour t'a aveuglé et puis tu te maries avec elle. Mais dans cette union-là, c'est là que tu vas commencer à voir les choses. Lorsque vous étiez en amitié là et tout, mais la fille était gentille, mais d'une douceur. Tu as dit, moi, j'ai jamais rencontré une fille comme toi. Elle aussi, elle m'a dit, j'ai jamais rencontré un gars comme toi. Maintenant, là, on habite ensemble. Hey, regarde, quand on était... et puis, on a des paroles, mais graves. Tu me prends pour qui? Quand on était à Mille et tout, tu penses que quoi? Que moi, je n'avais pas un caractère. Moi, je suis ceci. Moi, cela, moi. Donc, quand on est enfant de Dieu, attendons le temps de Dieu, le temps carieux. Ne dis pas, regarde l'âge que j'ai. Comment Dieu ne m'a pas encore donné une femme? Comment Dieu ne m'a pas encore donné un mari? Est-ce que tu as appelé à te marier aussi? Est-ce que tu as appelé à te marier? Peut-être pas. Eh bien, si tu as appelé à te marier, attends le temps de Dieu.
Ouais.
Qui a dit qu'il faut se marier forcément jeune? Qui a dit ça? Qui a dit qu'il faut forcément avoir les enfants jeunes? Dans quelle parole c'est écrit dans la Bible? Puisque notre mère, Sarah, a enfanté à 90 ans. Donc, ne venez pas me dire que ça, c'était avant. Avec Dieu, il n'y a pas de ça, c'était avant. Avec Dieu, il vient confondre les sages de ce monde. À 90 ans, tu peux enfanter. Ça va étonner les gens, mais c'est ça, c'est Dieu. Donc, attendons le temps de Dieu et soyons des enfants obéissants. Alléluia.
Amen.
Donc, vous voyez, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne pense pas que dans cette acceptation-là, on aura des épreuves. Alléluia. Toi, tu crois que comme tu as Jésus, tout va être lisse. Tu n'auras pas de preuves, machin et tout. Et quand tu passes par des épreuves, tu commences à lâcher la main de Dieu. Tu te dis, si véritablement il était avec moi, je ne subirais pas ça. Donc, je vais aller voir ailleurs. Donc, ta foi là est tombée. Tu ne crois plus en lui. Pourquoi? Parce que tu es passé par une épreuve. Donc, j'aimerais m'adresser à ces personnes que si tu as fais ça. Ou si tu as l'intention de faire ça, reviens vers Jésus. Il ne t'a pas abandonné. Remets-toi en question. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas dans ta vie? Ce n'est pas forcément Dieu. C'est peut-être toi qui t'es écarté. Et comme tu as vu que les choses ne marchent pas, tu veux maintenant lâcher la main de Dieu. C'est comme si tu étais païen. Mais tu vas revenir vers le Seigneur. Alléluia.
Amen.
Amen. Le live n'est pas fini, hein? Là, il y a la prophétesse Maria qui veut peut-être intervenir. Elle a peut-être quelque chose à ajouter. Prophétesse Maria, je vais accepter votre demande. Alléluia. Donc, la joue en cours. Et s'il y a des personnes aussi qui sont connectées, qui n'ont pas encore accepté Christ, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es perdu, tu es une brebis égale. Alors, ce matin, je t'invite à l'accepter. Et j'invite aussi à toutes ces personnes qui ont laissé la main de Dieu à revenir vers Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ce sont nos actes que nous posons qui nous condamnent. Alléluia. Alors tu fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je te confie ma vie. Purifie-moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. Pour ma victoire, je le crois de tout mon cœur et je le confesse de ma bouche. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. Les temps sont mauvais. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu fais n'importe quoi. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es perdu. Et si tu es parent, tu n'as pas accepté encore Jésus dans ta vie, comment sera ta maison? Comment sera ta vie? D'où l'importance capitale d'avoir Dieu dans sa vie. Même si tu passes par des tribulations, alléluia, tu sais qu'il y a une main qui t'attrape, c'est la main de Dieu. Cette main-là, la main de Dieu-là, Dieu lui-même va te fortifier, va te donner la paix du cœur. Vous voyez, une personne qui a Jésus dans sa vie et une personne qui n'a pas Jésus vont traverser la même situation. Alléluia. La même situation. Mais toi qui as Jésus, dans cette situation-là, il va te donner la force, il va te donner la paix, il va te donner l'intelligence, il va te donner, c'est-à-dire que la force de supporter tout ça. Et l'autre va dire, mais comment on est en train de passer par la même situation? On est en train de passer par la même situation et toi, tu as le sourire, tu as la paix. Mais ça ne vient pas de moi, c'est parce que j'ai Christ avec moi. Donc, il est plus fort que tout ce qui se passe là. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant même, la situation est résolue, mais sauf que dans cette situation, tu as la paix. Et forcément, il va trouver une solution à ton problème. Alléluia. Amen. Donc, arrêtons de dire, depuis que j'ai accepté Jésus, rien ne va. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a accepté Jésus, mon mari et moi, on n'est pas parti à l'église parce que on était malade ou parce que on ne travaillait pas. Non, on savait qu'on avait une vie paisible. Amen. Et quand on a accepté Jésus, et mon mari me dit, moi je comprends pas. Depuis qu'on a accepté Jésus, rien ne va. Les choses ne changent pas. On stagne toujours. Bon, on était encore bébé dans la foi. Après, je lui ai dit, mais peut-être que ce n'est pas le temps. Et vous savez, vous avez des choses que vous recevez dans vos vies. Ce sont des choses. Quelle est la source de cette bénédiction-là? Et Dieu, il va t'épurer. Par exemple, tu avais une voiture. Tu as eu cette voiture par le canal de la prostitution. Dieu va faire en sorte que cette voiture, maintenant que tu l'as dans ta vie, il va faire en sorte que cette voiture tombe toujours en panne. Parce que ça ne l'a pas honoré. C'est pas une bénédiction qui a honoré Dieu. Alléluia. Donc, la voiture va toujours tomber en panne, va tomber en panne. Je dis que m'attends. Moi, quand j'étais là sans Jésus, ma voiture n'avait pas de problème. Mais Jésus est en train d'enlever tous ceux qui ne confessent pas son nom. Voilà pourquoi les gens disent, oui, depuis que j'ai accepté Jésus, rien ne va. Mais il est en train de t'épurer. Il est en train d'enlever tout ce qui te retarde dans ta bénédiction. Alors, je t'invite encore à l'accepter dans ta vie. Il ne peut pas t'abandonner. Tu ne peux pas suivre Jésus et ne pas réussir dans ta vie. Ce n'est pas possible. Sauf que nous sommes impatients et l'impatience nous amène à désobéir et la désobéissance a des conséquences graves. Que l'obéissance soit notre partage. Aie toujours confiance en Jésus. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Personne ne peut t'aimer comme Jésus.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Je vous aime, vous m'aimez, mais personne ne peut nous aimer comme Jésus.
Amen.
Alléluia. J'espère que ce message vous a plu. Et c'est mon souhait. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Nous découvrons les choses dans tous les lives que nous écoutons. Ce qui est bon, tu prends. Ce que tu trouves que ce n'est pas bon, tu laisses. Mais il y a toujours quelque chose qu'on retient. Alléluia. La procréation horizontale est terrible, vraiment terrible. Et tout ça, pourquoi? À cause de la désobéissance. Et cette désobéissance, c'est une origine lointaine, lointaine. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des jeunes là qui ne sont pas encore mariés. Avant de vous marier, consultez Dieu. Ne soyez pas pressés. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Donc, vous ne dépendez plus de vous. Le jour où Dieu décidera que c'est elle, qu'elle soit, comment elle s'appelle, Léa qui avait le problème de vue, ou qu'elle boite, ou qu'elle n'est pas là à l'école, ou quoi, quoi. C'est le choix de Dieu. Tu ne peux pas discuter, tu prends. Parce que cette personne qui a une infirmité ou qui n'a pas fait des études, avec cette personne ordinaire selon les hommes, Dieu en fera une personne extraordinaire. Alléluia. Donc, si tu aimes vraiment ton Dieu et tu sais que sans Dieu, tu n'es rien, la personne qui va te présenter là, dis seulement Amen, merci Seigneur. Même s'il n'y a pas de sentiments, les sentiments vont venir parce que ça vient de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre live. Je bénis l'Éternel de ce qui m'a donné la force, la joie, la paix de transmettre ce message. Et je crois que ça a impacté quelqu'un parmi vous parce que c'est très important. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Merci d'avoir laissé vos occupations pour venir écouter la parole de Dieu par le Jérémie. Alléluia. Dieu est merveilleux.
Amen.
Excellent Père de gloire, je voudrais te rendre grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée encore aujourd'hui de parler de ta part. Seigneur Dieu de gloire, que ce message puisse impacter plus d'un, que ce message vienne conscientiser tes enfants, que l'obéissance soit nos partages, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient chassés du milieu de nous. Nous voulons marcher selon ta volonté. Père, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits. Je te recommande tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, qui se sont connectés. Père, tu connais le besoin de chacun. Alléluia, accorde-leur le désir de leur cœur. Je bénis ton Saint-Nom pour mon mentor ici présent, tonton Alain. Merci pour tes enseignements qui font du bien à tout le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie du ministère des Enfants Perdus, fondatrice du mouvement des femmes abusées, restaurées par Christ. Que Dieu vous bénisse divinement. Amen. Je
Amen.
vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen.
Amen.